Ce matin, je vais continuer dans la lignée de ce qu'on a fait cette année. Donc, je vais vous parler d'un personnage, de l'Ancien Testament, personnage dont il n'y a pas énormément de textes qui parlent de lui, mais le texte qui en parle est bien connu. Et c'est un personnage dont, pour le définir, je dirais que c'est un personnage, c'est un homme d'une promesse. Un homme d'une promesse. Et on va lire pour commencer, pour introduire cette promesse. Et on va la lire dans Exode. On va la lire dans Exode au chapitre 3. Et on va lire les versets 16 et 17. Alors on va lire beaucoup ce matin. Je vais essayer d'aller quand même assez vite. Donc, on va lire les versets 16 et 17 de l'Exode. Donc, ce passage, c'est le passage où Dieu appelle Moïse, après qu'il ait passé 40 ans dans le désert. Il va l'appeler, il va l'envoyer pour aller chercher son peuple. Et donc, il dit à Moïse, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. » Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vraiment visité, j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous êtes dans la misère, vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens, des Yébousiens, dans un pays découlant de lait et de miel. Voilà la promesse. Voilà la promesse. Et on va pas parler de Moïse. Ça aurait pu être lui, mais on va parler d'un autre homme, un homme qui s'appelle Caleb, un homme qui s'appelle Caleb et qu'on va retrouver dans Nombre, dans le livre des Nombres, et on va lire les chapitres 13 et 14. Alors pas tout à fait entièrement, je vais sauter quelques passages pour aller un peu plus vite. Donc on va lire Nombre 13 et 14, donc toujours là dans la. Je vais la lire dans la traduction du second. Donc c'est un passage qu'on connaît bien. Hein, c'est le passage qui va nous parler de l'échec du peuple à entrer dans la promesse. Et on va voir comment Caleb et Josué, je pense que la prochaine personne dont je vous parlerai, ben, ce sera ce Josué. Donc, comment Caleb et Josué, eux, ont su se saisir de cette promesse de l'Éternel. Donc, je commence au chapitre 13. Donc, le peuple a traversé le désert. Donc, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu le Seigneur qui marchait devant eux, derrière eux. Ils ont pu goûter à la protection de Dieu, et ils arrivent devant le pays de Canaan. Et l'Éternel parle à Moïse et lui dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père. Chacun d'eux sera un prince. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des Israélites. Et voici leurs noms. Donc, on va avoir les noms. Je vais pas lire tous les noms. Donc, chaque tribu est citée. Mais je vais simplement citer pour la tribu d'Éphraïm, Hoshéa, fils de Noun. Un peu plus bas, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yéphouné. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Hoshéa, fils de Noun, le nom de Josué. Alors juste, Hoshéa, ça veut dire sauve. Josué, ça veut dire l'Éternel sauve. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le Négeb, puis vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, campement ou forteresse, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il s'y trouve des arbres ou s'il n'y en a point. Fortifiez-vous, prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob à l'entrée de Hamath. Ils montèrent dans le Negev et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai, Tamai, fils d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Écol, où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cette vallée Écol à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute la communauté, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Négev, les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons et nous prendrons possession du pays, car nous serons vainqueurs. » Les hommes qui étaient montés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes de haute taille. » Nous avons vu les géants fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit « Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait entrer dans ce pays pour tomber par l'épée ?» Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Et ils se dirent les uns aux autres, « Donnons-nous un chef pour retourner en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté des Israélites. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphouné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. » Toute la communauté parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui ? Je le frapperai par la peste et je le déposséderai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Et là, Moïse va plaider pour le peuple et va demander à ce que l'Éternel le pardonne. Et au verset 19, on lit Donc pardonne, je t'en prie, la faute de ce peuple selon la grandeur de ta bonté, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte et jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as dit, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont outragé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer des joncs. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Jusqu'à quand laisserai-je cette communauté méchante murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant. Oracle de l'Éternel, je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous que l'on a dénombrés, et en comptant depuis l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais promis de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Yéphouné, et Josué, fils de Noun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Et vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos fils seront nomades. 40 années dans le désert, ils porteront le poids de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours, vous porterez le poids de vos fautes 40 années. Une année pour chaque jour, et vous connaîtrez ma disgrâce. Et donc les hommes qui avaient accompagné Caleb et Josué vont mourir à ce moment-là. Ils vont contracter une peste et mourir. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphouné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés explorer le pays. Moïse rapporta ces paroles à tous les Israélites et le peuple mena grand deuil. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous monterons à l'endroit dont nous a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse leur dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est point au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous allez tomber par l'épée parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera pas avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche d'alliance de l'Éternel et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Donc, premier passage qu'on connaît bien, mais on ne se rappelle pas forcément de tous les détails. Et puis, on va retrouver Josué, 40 ans plus tard. On va le retrouver au moment où le peuple rentre dans Canaan, selon la promesse. Et on le retrouve donc en Josué 14, à partir du verset 6. Là, on va lire seulement 6 versets. Donc, Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'avancèrent vers Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Yéphouné, le Kénizien, lui dit « Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en ce qui nous concerne, moi et toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans, lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh pour espionner dans le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple. Moïse fit ce serment. Assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes fils à perpétuité, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici ce que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, me voici aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim. Il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi, et je les déposséderai, comme l'Éternel l'a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Yéphouné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yéphouné, le Kénizien, a jusqu'à ce jour eu Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors tranquille et sans guerre. Au chapitre suivant, je lis au verset 13. « On donna à Caleb, fils de Yéphouné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. Kiriath Arba, qui est Hébron, Arba était le père d'Anak. Caleb en déposséda les trois fils d'Anak, Shéchaï, Aminan et Talmaï, descendants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sefer. Caleb dit « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sefer et qui s'en emparera. » Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Donc voilà l'histoire de Caleb. Et elle commence au moment où, où Moïse va demander aux enfants d'Israël d'aller explorer le pays. Allez voir. Allez voir ce qu'est ce pays qui vous a été promis depuis déjà un certain temps. Depuis le début où vous êtes sortis d'Égypte, vous aviez cette promesse, ce pays qui avait été promis déjà à Abraham. Allez voir. Il correspond à la promesse. Dieu aurait pu dire, allez-y, directement, là où vous êtes, prenez vos armes, rentrez dans le pays et prenez-en possession. Et c'est pas comme ça qu'il faut. Il demande d'aller voir d'abord. Alors, au point de vue militaire, on peut comprendre que c'est une nécessité avant d'entrer dans un champ de bataille. Il vaut mieux savoir à quoi on peut s'attendre. Mais l'objectif là est pas seulement militaire. Moïse demande d'aller voir comment sont les fortifications, très bien. Mais il demande aussi d'aller voir comment est quelle est la richesse du pays. Est-ce que c'est un pays qui correspond à ce qui a été promis? Est-ce que c'est un pays débordant de lait et de miel? Et les hommes qui ont été choisis, des princes en Israël, pas des... D'accord, c'est pas le bas du panier hein, qui part. C'est vraiment des leaders, des hommes que le peuple va écouter et respecter. Donc ils partent et ils voient. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un pays tel qu'il avait été annoncé. Et ils reviennent en disant oui, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais, c'est un pays qui dévore ses enfants. Je me suis demandé ce que ça pouvait bien signifier que cette expression, pays qui dévore ses enfants. Et on sait que les peuples habitant ce pays avaient été rejetés par l'Éternel. Et cette expression, on peut bien la comprendre comme un pays où règne effectivement la violence. Probablement un pays où on sacrifie des êtres humains à des faux dieux. Un pays violent, un pays de guerriers, un pays de géants. Et les hommes qui ont été envoyés vont avoir deux réactions complètement opposées. Les premiers vont, les plus nombreux, 10 parmi les 12, vont mettre en avant l'impossibilité de conquérir le pays. Et ils vont provoquer murmures et ressentiments parmi le peuple. Le peuple va les suivre en disant « Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. » Et le peuple va murmurer contre Moïse et Aaron, murmurer contre Dieu. Et ces murmures, je les retrouve dans ma propre vie. Quand je suis confronté à une difficulté, quand je suis confronté à un choix à faire, je peux entendre ces murmures qui me conseillent, qui me disent « Regarde, comment est ta situation ? Évalue-la objectivement et trouve une solution qui soit réaliste et envisageable. Choisis ce qui est le plus facile, ce qui est ce qui te causera le moins de douleur, le moins de souffrance. Je pense qu'on les entend tous, ces murmures. comment quand on ressasse dans nos pensées ce qu'on pourrait faire autrement dans chacune des situations de notre vie, des murmures qui nous disent mais dans ton couple, peut-être ce serait plus facile si tu laissais tomber. Dans ton église, peut-être ce serait plus facile si tu laissais tomber quand l'un ou l'autre te prend la tête ou quand ça ne se passe pas comme tu veux ou quand il y a des tensions et des difficultés. Change. Change d'église, ça c'est facile. Change de femme, ça c'est plus difficile. Mais c'est des murmures que nous pouvons entendre, que nous pouvons écouter. Ces hommes disent, nous nous sommes vus comme des sauterelles. Ils nous ont vus comme des sauterelles et nous nous sommes vus comme des sauterelles. Ça, c'est leur perception face à la difficulté qui est devant eux. Beaucoup trop grand. Et nous, mais beaucoup trop petits. C'est comme ça qu'ils se voient. C'est comme ça qu'ils évaluent ce qu'ils sont. Des sauterelles. Et la conclusion qui vient naturellement quand on est une sauterelle, c'est de s'enfuir. Une sauterelle va pas au combat. Hein. Ça se fait écrabouiller et donc ça s'enfuit. La solution qu'ils trouvent, eh ben, c'est de retourner en arrière. On aurait mieux fait mourir en Égypte, mourir dans le désert. Mieux vaut retourner, être esclave à nouveau. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient réussi à retourner en Égypte après ce qui s'était passé avec Pharaon, mais en tout cas, ça leur paraît une solution raisonnable. Ils savent d'où ils viennent, ils se disent, bon, au moins, on voit où on peut aller. Retournons plutôt en arrière. Ça, c'est leur première réaction. Et puis après, ils ont une deuxième réaction. Une fois que Moïse leur a dit, bon, ben, écoutez, alors, une fois que Dieu a révélé sa gloire et sa puissance devant eux, qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas faire comme si Dieu était pas là, ils sont bien obligés de prendre en considération le fait que Dieu est leur Dieu et qu'il est tout puissant. Alors là, ils changent d'attitude et ils disent, bon, ben, d'accord, on s'est trompé, on va y aller quand même. Et ils oublient que le principal, c'est pas le but. Le principal, c'est le chemin. C'est comment on y va? Avec qui? Avec quelle force? C'est ça qui compte. Et ça, ils l'oublient. Ils se disent, bon, d'accord, on nous avait dit qu'il fallait y aller, bon, ben, on y va. Même si Dieu nous dit qu'il n'est pas avec nous... Bon, on y va quand même. Et donc vous avez entendu ce qui leur arrive. Ils se font tailler en pièces. Donc ça, c'est la première réaction à cette épreuve de foi que l'Éternel a mis devant eux en leur demandant d'aller explorer le pays, d'aller mettre la promesse de Dieu à l'épreuve. La première réaction qui oublie qui est Dieu, qui oublie qui ils sont, qui cherche des solutions avec leur propre force et qui se plante misérablement. Et ils vont, ce texte nous dit, emporter les conséquences, les hommes de... probablement les femmes de 20 ans et plus vont périr dans ce désert, 40 années, une année pour chaque jour passé à explorer le pays. Et puis donc il y a une deuxième attitude, et donc c'est celle de Caleb et de Josué. Et donc ce matin on va surtout parler de Caleb parce que c'est lui qui parle dans ce passage. Josué va être celui qui va prendre la suite de Moïse, qui va être son bras droit. Mais à ce moment-là, dans cet épisode de Kadesh Barnéa, c'est Caleb. Caleb qui va prendre la parole. Caleb, 40 ans, dans la force de l'âge, à peu près. Donc pour une espérance de vie maximum de 60 ans. Hein. Là, clairement, tous ceux qui ont plus de 60 ans vont mourir dans le désert. 40 ans, c'est déjà un âge assez avancé pour cette époque-là. Mais un prince pour la tribu de Juda. Et pourtant, Caleb, c'est un Kénisien. Caleb, sa famille n'est pas née dans la tribu de Juda. Caleb, son clan, c'est une pièce rapportée. Dans Genèse, on voit que les Kénisiens étaient Kénisiens, fils de Kénaz, donc étaient un peuple qui vivait au sud de Canaan, et donc ils se sont retrouvés intégrés à la tribu de Juda. Et tellement bien intégrés que quand il faut présenter un prince, un des principaux de cette tribu, et ben c'est Caleb qui est mis en avant. Et donc Caleb a vu la même chose que les 10 autres. Ils ont tous vu pareil. Le pays débordant de lait et de miel, ils ont vu aussi les fils d'Anak, les géants. Et Caleb, la première chose qu'il fait, ben c'est déjà, il fait taire le peuple. Il fait taire le peuple. On vit dans une démocratie où le peuple est, je ne veux pas dire sacralisé, mais disons, c'est tous les politiques se réclament du peuple, se réclament de parler au nom du peuple. Donc l'idée même de faire taire le peuple, c'est quelque chose qui nous paraît pas possible, puisque le peuple a en démocratie, le peuple a raison. Eh ben là non, là le peuple n'a pas raison. Le peuple lui murmure. Le peuple discute, tourne en rond, et la mayonnaise qui prend dans ce peuple-là, c'est pas la volonté de l'Éternel qui remonte. Ça peut nous interroger un petit peu sur la vie de l'Église, cet épisode-là. Vous savez que l'Église n'est pas une démocratie non plus. C'est pas comme ça que fonctionne l'Église, même si les discussions et le partage que nous avons les uns avec les autres est un élément important. Mais la vie de l'Église repose d'abord sur le dialogue de chacun des membres avec Dieu. Parce que ce que nous cherchons, c'est pas la volonté du peuple, ce que nous cherchons, c'est la volonté de Dieu. Et là, la volonté de Dieu va s'exprimer par la voix d'un homme. La voix de Caleb, un homme devant son Dieu. Un homme qui a écouté, qui a vu, qui a appris. Qui a appris qui est Dieu. Caleb qui va dire, montons et nous serons vainqueurs. Caleb qui va dire avec Josué, l'Éternel est avec nous et nous vaincrons. L'Éternel est avec nous et nous vaincrons. Comment est-ce qu'il peut savoir? Comment est-ce qu'il peut savoir que l'Éternel est avec nous? Caleb a vécu comme les autres Israélites la sortie d'Égypte. Il a vécu la traversée de la mer Rouge. Il a vécu les moments où c'est l'Éternel qui a pourvu aux besoins du peuple. Il a vu la colonne de feu devant le peuple. Il a vu tout cela. Il a entendu aussi. Il a entendu Moïse. Et il a entendu la promesse. Il a entendu la promesse. Le pays de Canaan, le pays des Yébousiens, des Héviens, des Cananéens, des Hittites. Ce pays et pour vous. » Caleb a vécu et a entendu tout cela. Et il a cru. Et il s'est attaché. Il s'est attaché à cette promesse. Il l'a pris au sérieux. Et il a décidé que ça valait le coup de risquer sa vie. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. Il s'agit bien de risquer sa vie, non seulement sa vie, et puis celle des enfants et des femmes qui sont derrière. Que ça valait le coup de risquer sa vie sur cette promesse. Et Caleb, c'est aussi une autre chose. Donc, l'Éternel est avec nous, première chose. Deuxième chose, nous vaincrons. Parce que l'Éternel est puissant. Le Dieu que connaît Caleb est un Dieu qui est suffisamment puissant pour donner la victoire. Même face à des géants, même quand la situation militaire montre que le peuple ne peut pas vaincre, eh bien, l'Éternel est capable, lui, de donner la victoire. Caleb a compris que la force ne réside pas dans les chevaux et les chars, mais que la force est en l'Éternel. L'Éternel est suffisamment puissant pour accorder cette victoire sur laquelle Caleb va compter. Et donc, on retrouve Caleb 40 ans plus tard, 45 ans même, 45 ans, 40 ans à errer dans le désert, et la conquête commence. Et pendant 5 ans, Caleb va se battre aux côtés de ses frères et participer à la conquête de Canaan. Et finalement, ils arrivent devant Hébron, donc la tribu de Juda se présente devant Josué et réclame la promesse qui a été faite à Caleb, que la terre sur laquelle il avait marché, donc Hébron, Hébron et ses alentours, bien, cette terre-là va être pour lui et ses descendants. Il revendique cette promesse, et encore une fois, il s'appuie sur l'Éternel. Et donc, Caleb va au bout de son engagement, parce que la terre qu'il revendique, eh ben, c'est la terre des géants. C'est la terre de ceux qui avaient tellement effrayé les envoyés d'Israël. C'est les descendants d'Anak. Ceux qui ont des villes fortifiées, ceux contre lesquels la conquête sera rude et difficile. Et Caleb dit, eh bien, si l'Éternel est avec nous, nous remporterons la victoire et nous conquérons ce pays. Et c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Le texte nous dit que... Le texte, d'ailleurs, ne détaille même pas les étapes de la conquête, comment ils ont réussi à rentrer dans Hébron, comment ils ont réussi à vaincre ces villes fortifiées. Caleb a conquis le pays. Et le pays est en paix. Le dernier passage donc, qui nous parle de Caleb fait référence à un épisode, en tout cas, de cette conquête, quand il s'agit d'aller conquérir un des Débir, une des régions de cet endroit, et une ville, Kiriath Sefer. Et le texte nous dit que Caleb va demander, va mettre un défi devant son clan, qui est prêt à aller conquérir cette ville. Et celui qui y arrivera, eh bien, je m'allierai avec lui en lui donnant ma fille. Et le texte nous dit que Othniel, mon neveu, va conquérir cette ville. Caleb va non seulement se saisir de cette promesse, mais il va aussi la partager. Il va aussi mettre en avant celui qui sera capable de se saisir de cette promesse Et il va aller jusqu'à voilà, proposer de s'allier par les liens du sang avec cette personne. Et c'est Othniel qui va relever ce défi et le remporter. Othniel, on va retrouver un peu après, parce que Othniel, ça va être celui qui va succéder à Josué. Ce sera le deuxième juge d'Israël. Othniel qui va être un outil dans la main de l'Éternel pour délivrer, une fois de plus, pour délivrer le peuple qui se détourne de lui. Caleb va transmettre cette confiance qu'il avait en l'Éternel, transmettre son attachement à la promesse qui lui avait été faite de la part de Dieu. Ce Caleb est au bout du compte, on ne sait pas forcément beaucoup de choses de lui, mais comme je l'ai dit en introduction, Caleb a réglé sa vie sur la promesse. Promesse qui avait été faite au peuple, dont il faisait partie. Promesse qui lui a été faite à lui, Caleb en particulier. Et sa vie va être conduite par cette promesse. Et le texte nous dit, à deux reprises au moins, que Caleb a suivi l'Esprit de l'Éternel. Il a vécu d'une façon qui a plu à l'Éternel, au milieu d'un peuple rebelle qui se détournait de Dieu. Caleb, lui, s'est attaché à Dieu et Dieu l'a béni. Alors je vais m'arrêter là et vous laisser quand même une question. On a vu que Caleb a fait le bon choix au moment où les autres se détournaient. Et c'est une situation qui nous arrive à tous, de devoir faire des choix, de devoir choisir si nous nous attachons à la promesse ou si nous la laissons tomber. Caleb avait une idée très claire de ce que c'était que cette promesse. Alors je veux vous laisser cette question-là. Quelle est votre promesse? Quelle est la promesse que Dieu vous a faite à vous en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu? Quelle est la promesse qu'il vous a faite en tant qu'individu, en tant que vous, différent de celui qui est assis à côté de vous? Quelle est la promesse à laquelle vous pouvez vous attacher quand vous devez choisir? Quand vous devez choisir de suivre l'Éternel ou bien de trouver des solutions à vos problèmes par vos propres moyens? Quelle est la promesse sur laquelle vous vous attachez pour répondre à cette question? Moi, je vois que dans ma vie, c'est arrivé souvent que je doive choisir. Et c'est vrai, c'est parce que je me rappelais les promesses que Dieu m'avait faites. Je me rappelais combien Dieu avait été fidèle dans ma vie, que j'ai pu choisir de m'attacher à lui et de lutter dans les épreuves qui ont pu m'arriver. Que le Seigneur vous bénisse.